France Inter, le 7-9.
7h48, Alexandra Ben Saïd, votre invité ce matin est psychiatre, membre de l'Académie des technologies. Il co-signe un nouvel appel à une vigilance raisonnée sur les technologies numériques.
Bonjour Serge Tisseron.
Bonjour.
Aujourd'hui, on compte plus de 5 écrans par foyer, et c'est une moyenne. Il y a beaucoup de messages d'alerte. Alors que dites-vous? Est-ce qu'aujourd'hui, on sait si ces tablettes, ces smartphones, ces consoles de jeux vidéo rendent nos enfants bêtes? Est-ce qu'on sait si ces écrans ont un effet irréversible sur leur cerveau?
Alors, vous savez, le cerveau met très longtemps pour se transformer. Donc, il y a eu des études qui montrent chez certains enfants qu'ils restent 6-7 heures devant un écran tout petit, qu'il y avait en effet des modifications cérébrales, mais on ne sait pas très bien si elles sont annonciatrices de performances majorées ou si, au contraire, elles seraient problématiques. Donc, heureusement, ça ne concerne que des enfants à la marge. Alors, pour la plupart d'entre nous, pour la plupart de nos enfants, c'est évidemment les comportements, les habitudes qui sont changées. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'alertes sur la réduction des capacités de mémoire, sur le fait que les enfants qui s'habituent à voir défiler des images très colorées, très rapidement sur les écrans, se déshabituent de la possibilité de s'investir sur une activité qui les intéresse. Mais enfin, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas les écrans qui sont un problème, c'est les mauvais usages. C'est le fait que trop d'enfants petits sont, si vous me permettez l'expression, plongés dans la marmite des écrans à un moment où ils ne peuvent que s'y noyer. Et puis c'est le fait que beaucoup de parents aujourd'hui donnent le mauvais exemple. Et tous les parents qui sont sur leur smartphone en permanence, notamment pendant les repas, sont mal placés pour dire à leurs enfants « Ne décroche pas ton smartphone quand on est ensemble en train de manger. »
Boum pour les parents. Alors vous ne pensez justement pas qu'il faille priver les enfants d'écran, mais vous dites qu'il faut un bon usage. Vous faites une comparaison avec l'alimentation, la nourriture, c'est-à-dire ?
Oui, tout à fait. Alors, vous savez, pour se nourrir, c'est pas très compliqué, mais on voit que notre culture a produit un grand nombre de rituels autour de l'alimentation. On se met à table ensemble, on a chacun une assiette, on se sert pas dans le plat, on parle pas la bouche pleine, voilà. Bon, beaucoup de familles, on respecte aussi les horaires des repas. Donc, ce qu'on dit d'abord, c'est que lorsqu'on va introduire un écran dans la vie d'un enfant, alors, idéalement, un enfant avant 3 ans n'a pas besoin d'écran, sauf en usage accompagné pour jouer ensemble, pour le plaisir de rire ensemble. Mais à partir de 3 ans, quand un enfant, idéalement, va commencer à être devant un écran, il faut sanctuariser ce moment, c'est-à-dire que l'enfant va savoir que, par exemple, c'est entre 18h et 19h ou entre 18h et 20h, de manière à apprendre à attendre. Et là, on retrouve une idée forte de l'avis de 2013 de l'Académie des sciences, c'est que le premier apprentissage de la capacité d'autorégulation, c'est apprendre à attendre. Donc si on allume l'outil numérique, la tablette, la télé, dès que l'enfant dit télé ou tablette, on ne lui apprend pas à attendre. Donc sanctuariser un moment, et puis à partir de là, inviter l'enfant à parler de ce qu'il voit, et puis privilégier les pratiques de groupe, jouer ensemble plutôt que laisser l'enfant jouer tout seul.
Donc ça c'est votre règle 3-6-9-12, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, des usages différents, régulés différemment.
Alors ça c'est quelques éléments des balises 3-6-9-12, mais dans ces balises, qu'en effet vous avez raison, ce qu'il faut comprendre c'est que à chaque tranche d'âge correspondent des écrans spécifiques et des usages spécifiques des écrans.
Serge Tisseron, dans cet appel à la vigilance de l'Académie des sciences, de l'Académie de médecine et de l'Académie des technologies, vous vous intéressez bien sûr aux adolescents. On les voit, ils vivent avec leurs réseaux sociaux, ils ont le visage perpétuellement penché sur leur smartphone. Et là, votre conclusion, elle va détendre énormément de parents ce matin. Pour vous, la majorité des jeunes bénéficient de ce temps passé en ligne?
Oui, alors c'est pas nous qui le disons. L'UNICEF a lancé une étude, a collationné un grand nombre d'études internationales, a publié un avis que tout le monde peut trouver sur Internet. Il est paru en décembre 2017, sur les adolescents connectés, 8-12 ans. Et sa conclusion, c'est que la majorité des adolescents utilisent plutôt bien les technologies numériques, les smartphones. Le rapport d'UNICEF a même une comparaison qui réjouira ceux qui aiment bien les comptes. Ils disent que c'est un usage boucle d'or, ni trop ni trop peu. Alors en revanche, voyez bien que ça doit pas nous rassurer pour autant, parce que ça veut dire qu'il y a certains adolescents qui utilisent leur smartphone très mal. Et là, on a tous des connaissances autour de nous. On voit tous des fois dans les journaux des histoires ahurissantes de harcèlement, de victimisation, de jeunes qui se surexposent sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on connaît ces catégories à risque. Et c'est pour ça qu'il faut mener un travail de prévention important auprès d'elles. Alors, de qui s'agit-il? Il s'agit d'abord d'enfants qui peuvent être en souffrance avant d'être introduits dans les outils numériques. Des enfants qui, dès l'âge de 6, 7, 8 ans, avant d'avoir leur premier smartphone, sont victimes de harcèlement, de maltraitance, de deuil, deuil grave. Et puis la deuxième catégorie, ce sont les milieux défavorisés. Et on s'aperçoit que les enfants des milieux défavorisés non seulement sont pas introduits aux écrans quand ils sont tout petits, à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais en plus, ils ne sont pas introduits à l'utilisation des outils numériques des plus sophistiqués, des téléphones mobiles, des réseaux sociaux.
On n'est pas tous égaux devant les, écrans.
Non.
Les disparités sociales comptent énormément.
Elles comptent énormément. Et c'est pour ça que, dans cet avis, nous tenons à dire, arrêtons une condamnation massive et univoque des écrans. Nous ne sommes pas égaux face aux écrans. Certains s'en tirent très bien, d'autres s'en tirent très mal. Ben, il faut comprendre pourquoi certains s'en tirent mal avec les écrans, savoir les aider pour que tout le monde bénéficie de ce que les écrans peuvent apporter et qu'une majorité de gens soient moins victimes de pratiques par lesquelles ils se sentent complètement dépassés.
En revanche, il y a un danger que vous pointez très clairement. Il y a quand même le danger des jeux vidéo. Et là, on pense à ces jeux vidéo qui ont l'air gratuits, Fortnite, Clash of Clans, les connaisseurs savent. Et vous dites que là, le jeu vidéo, son modèle économique... peut conduire le jeune à une autre forme de dépendance.
Oui, alors beaucoup d'adultes qui ont joué à leurs jeux vidéo ont encore l'idée du jeu vidéo qu'on va acheter dans un magasin, on voit dessus quelle est la tranche d'âge privilégiée, voilà, on arrive chez soi, on l'installe, et puis on joue tout seul ou en réseau.
C'est fini.
Ça, c'est fini. Ouais. Ça, c'est fini. Le modèle économique aujourd'hui du jeu vidéo, c'est le jeu qu'on appelle free-to-play, il est gratuit, c'est-à-dire qu'un enfant peut se mettre à jouer à un jeu vidéo à 8 ans, à 9 ans, sans que ses parents sachent à quoi il joue. Ils le voient devant un écran, et ils savent pas quel est ce jeu, à quelle tranche d'âge il correspond, qu'est-ce qu'on y fait. Et aujourd'hui, le problème, c'est que certains jeux vidéo sont conçus pas seulement, ou je dirais même pas plus du tout, pour que les joueurs s'amusent, mais ils sont conçus pour retenir les joueurs et les faire payer hein, à l'intérieur du jeu. C'est le nouveau modèle économique. Vous allez sur un jeu et à l'intérieur du jeu, vous êtes invité à mettre de l'argent un petit peu, puis de plus en plus. Et les parents ne savent plus du coup à quoi jouent leurs enfants. C'est pour ça que nous appelons à ce que les fabricants de jeux vidéo soient beaucoup plus clairs sur les indications, sur les tranches d'âge privilégiées et sur les opérations diverses, les expérience du joueur dans lesquelles les joueurs sont invités à entrer.
Est-ce qu'il faut mettre des messages sanitaires ? Alors, il y a eu une idée. Hein, le Sénat a porté cette idée. Vous la souteniez ?
Ah,
mettre
oui.
Des messages sanitaires sur les emballages, surtout pour les enfants de moins de 3 ans, en tout cas pour leurs parents. L'exécutif n'en a pas voulu. Est-ce que les pouvoirs publics sont vraiment à la hauteur ?
Alors, les pouvoirs publics tiennent à garder la main. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est on va faire de notre côté une grande enquête pour savoir s'il y a un danger, et puis après, c'est nous qui allons prendre la décision. Mais tôt ou tard, on sera bien obligé de donner plus d'informations aux consommateurs. Regardez, aujourd'hui, on informe sur notre nourriture. Pourquoi est-ce que quand on ouvre un jeu vidéo, on voit pas apparaître un certain nombre d'informations claires sur les dangers, par exemple, ne serait-ce que jouer en réseau accroît le risque de jeu pathologique. Si chaque fois qu'un enfant ouvre un jeu vidéo sur Internet, il voyait cela et que ses parents voyaient cela, déjà, je pense que les familles seraient mieux éclairées sur les dangers des jeux vidéo.
Allez, dernière question, Serge Tisseron. On n'est pas au bout de nos peines parce que maintenant, il y a les assistants vocaux. Et là, vous êtes... C'est quand même inquiétant ce que vous dites à propos de tous ces assistants vocaux. Il y a le risque de devenir accro à des robots. Qu'est-ce qui attend nos enfants ?
Alors, ce qui est formidable, c'est qu'Amazon et Google, actuellement aux États-Unis, essayent de lancer leurs assistants vocaux pour les jeunes enfants en alertant les parents sur les dangers des écrans. Et alors, disant, devant un écran, votre enfant est passif, mais avec un assistant vocal, il va parler avec l'assistant vocal. Donc, le problème des assistants vocaux, vous savez, c'est qu'ils prélèvent pas seulement nos données quand on les met en route, mais ils prélèvent nos données en permanence parce qu'on oublie toujours de les débrancher. Donc voilà, il faut pas non plus être naïf. Hein,
Économie de la confiance, vous
voilà.
Dites, hein, bientôt, qui va nous arriver.
Voilà, aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie de la confiance, l'économie de l'attention avec les réseaux sociaux, mais en effet, il y a une nouvelle forme d'économie qui va arriver avec les robots. C'est une économie de la confiance dans laquelle nous allons être amenés très gentiment par ces machines à donner de plus en plus d'informations personnelles sur nos vies sans même nous en rendre compte. Et ce sera un pillage, un détournement de nos données personnelles considérable.
Serge Tisseron, méfiance, vigilance, mais un petit peu de confiance quand même face à ces
radio,
écrans.
Ouais.
Merci d'avoir été sur France Inter.
Merci Alexandra. À tout à l'heure, 8h20.